Vous écoutez France Culture.
France Culture, il est 7h41 et c'est avec un communiste, non pas des années 70, mais avec un de ses prédécesseurs des années 30, le plus illustre de son temps s'agissant de la France, que nous allons débuter cette séquence. En juin 1936, Maurice Thorez appelle à cesser les occupations d'usines qui entravent les premières heures du Front populaire. Il faut savoir, dit-il, terminer une grève dès que satisfaction a été obtenue. Il faut même savoir consentir au compromis si toutes les revendications n'ont pas encore été acceptées, mais que l'on a obtenu la victoire sur les plus essentielles. Alors, consentir au compromis, voilà une approche du dialogue social qui ne dépend que de celles et ceux qui le mènent. Pour le reste, il y a un cadre juridique complexe et qui devrait bientôt évoluer. Le ministre du Travail présente demain son projet de loi relatif au dialogue social et d'ailleurs au soutien à l'activité des salariés. Un texte qui, en cette 70e année d'anniversaire des comités d'entreprise, ambitionne de simplifier l'organisation du dialogue social dans les entreprises. Moins d'instances représentatives, moins de rendez-vous obligatoires pour les partenaires sociaux, davantage de protection pour les salariés des petites entreprises, une valorisation de l'expérience des représentants du personnel. Voilà en quelques grands traits l'essentiel de la réforme, réforme que nous allons détailler et analyser ce matin. Avec nos deux invités, à commencer par Pierre Ferracci, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes expert des relations syndicats-entreprises, vous présidez le groupe Alpha, qui est un cabinet de conseil qui travaille notamment auprès des comités d'entreprise. Je disais, 2015, c'est le 70e anniversaire de cette institution. C'est une institution, le CE, qui se porte bien.
Elle pourrait aller mieux. Il y a des progrès à faire et je pense que les 70 ans... D'anniversaire serait peut-être l'occasion de relifter un peu le dispositif.
Elle pourrait aller mieux du point de vue de son organisation, du point de vue de son financement.
Je crois que son organisation est à revoir et en matière de moyens, de prérogatives pour les représentants du personnel, il y a des choses certainement à simplifier, mais il y a également des choses à améliorer et à renforcer.
Alors, j'ai pas tout à fait fini votre présentation, hein, Pierre Ferracci. Vous êtes par ailleurs, depuis quelque temps, président du Conseil national éducation économique et chargé de promouvoir la coopération entre le monde économique et l'école. Vous êtes présenté, ça c'est dans un article du Figaro qu'on retrouve très facilement sur Internet, article de 2013, comme un des deux papes du monde social. Il y a Raymond Soubi et il y a vous. Alors, j'imagine que quand on est un pape du monde social et du dialogue social, on est consulté quand il y a élaboration d'un projet de loi. Ça a été votre cas?
Bien sûr, on est consulté. J'espère qu'on sera un petit peu écouté. Je ne suis pas sûr qu'on soit, dans le cadre de cette évolution législative, dans un mouvement fondamental. C'est quelque chose qui est à minima, de mon point de vue. Mais il y a des choses qui vont dans le bon sens. Il y en a d'autres qui me paraissent un petit peu plus contestables.
Ah bah vous nous direz ce que vous reconnaissez de vos préconisations dans ce projet de loi. Notre deuxième invité, c'est Jean-Marc Le Gall.
Bonjour.
Bonjour. Ancien DRH, vous êtes conseiller en stratégie sociale, professeur associé au CELSA. On vous doit, chez Desclés de Brouwer, c'était en 2011, l'entreprise irréprochable. Alors ce matin, donc avec vous, de l'idée, c'est de discuter de ce projet de loi sur le dialogue social, mais avant d'aller dans le détail, il faut peut-être faire une sorte de diagnostic un petit peu global de l'état de ce dialogue social. Est-ce que s'il y a une loi, qui est une sorte de loi cadre qui sera proposée demain au Conseil des ministres, Jean-Marc Le Gall, c'est le signe que le dialogue social ne fonctionne pas très bien aujourd'hui en France?
C'est le problème du système français, c'est que quand les partenaires sociaux négocient, ils savent très bien qu'en cas d'échec, il y aura l'État qui, derrière, pourra revenir sur le travail. Et d'une certaine manière, je crois que ça pervertit un peu et ça déresponsabilise un peu les relations sociales. On l'a vu là, puisque, d'une certaine manière, l'État ne fait que reprendre plus ou moins le texte que les partenaires sociaux avaient élaboré, qu'ils auraient finalement pu signer.
Voilà, parce que vous vous rappelez qu'il y avait des discussions qui ont duré de longues semaines entre les organisations syndicales et les représentants du patronat. En janvier dernier, le gouvernement a compris que ça n'aboutirait pas et a donc dit, puisque ça n'aboutit pas, on va passer par notre loi.
Donc on voit bien, l'idée c'est qu'on peut avoir deux façons de poser la question. On peut dire, l'État c'est très bien et là, en cas d'échec, finalement nous continuons à avancer. Mais on peut aussi se dire que c'est parce que l'État est là que les partenaires sociaux vont moins loin, qu'ils s'affrontent moins lucidement, moins courageusement, et qu'ils évitent parfois des moments de crise dans les négociations, dont on sait que souvent, quand on les dépasse, eh bien, on peut conclure des accords tout à fait innovants. Et moi, je pense que cette relation à trois n'est pas très saine en France.
l'État est un peu trop présent dans la question et la gestion du dialogue social, Pierre Ferracci?
Le problème, d'abord, il n'est pas facile de mettre en place une loi quand il y a eu un échec d'une négociation. Il faut comprendre les raisons de l'échec. François Hollande s'est affirmé le 14 janvier dernier, 2014 plutôt, en mettant en place le pacte de responsabilité comme étant social-démocrate. Le problème, c'est que pour mettre en place un régime social-démocrate, je crois qu'il l'est, il y a des ingrédients qui ne sont pas réunis chez nous. Il y a des organisations syndicales divisées. Il y a un patronat aujourd'hui divisé. Je crois d'ailleurs que la responsabilité de l'échec est plus à rechercher aujourd'hui de ce côté-là que du côté des organisations de salariés. Quand vous regardez comment fonctionnent les régimes sociaux-démocrates et l'équilibre qui est trouvé entre les partenaires sociaux et l'État, il y a une seule confédération syndicale, la plupart du temps, en tout cas pas huit. Il y a un patronat qui est plutôt plus homogène. Et à partir de là, ça facilite le rôle de l'État.
Vous diriez, Pierre Ferracci, que la discussion entre partenaires sociaux sur le dialogue social a d'une certaine manière payé les précédents accords qui avaient été passés, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'organisations ont considéré qu'ils avaient peut-être été en partie trompés par ce qui avait été obtenu.
Disons que la discussion sur le dialogue social a démarré bien avant l'arrivée de François Hollande, à partir de 2007 et de ce qu'on a appelé la loi Larcher. Il y a des tentatives de construire quelque chose de nouveau. Il y a des délibérations, ce qu'on appelait des délibérations qui préparaient la négociation, mais on n'a jamais trouvé le bon schéma. Et je crois que le rôle de l'État aujourd'hui, il faudra bien le penser et ne pas venir simplement reprendre le dernier texte des organisations patronales et syndicales. C'est un petit peu ce que fait la loi Rebsamen aujourd'hui en apportant quelques correctifs. Il faudrait vraiment penser à un système cohérent et je crois qu'il faut choisir entre deux voies. Une voie qui donne effectivement beaucoup de poids et de pouvoir aux partenaires sociaux, ce qui n'empêche pas, on l'a vu dans les pays du Nord ou en Allemagne, à l'État d'intervenir quand il le faut, ou une voie qui laisse un peu plus de place au marché, qui dérégule le marché du travail et qui, dans les faits, n'accorde pas autant d'importance que ça aux organisations syndicales. On sent bien qu'aujourd'hui, on est au carrefour des chemins et qu'il me semble qu'il faudrait choisir un peu plus clairement une voie. Le gouvernement donne l'impression de le faire. Est-ce qu'il se donne les moyens d'aller au bout? Je n'en suis pas totalement sûr.
Est-ce qu'il ne faut pas distinguer, Jean-Marc Le Gall, en matière de dialogue social, deux niveaux? C'est-à-dire ce qui se passe au niveau national, avec effectivement une forte implication de l'État et puis des grandes organisations, et puis ce qui se passe au niveau local, où finalement on constate que le dialogue social fonctionne pas si mal que ça. Moi, j'ai sous les yeux un article très récent des Échos qui dit ceci: c'est désormais le dialogue qui l'emporte. Plus de 80% des procédures de plans sociaux ou de départ volontaire s'ouvre par une négociation. Elle se conclut à plus de 60% par la signature d'un accord majoritaire avec les représentants du personnel. Qui aurait prédit un tel bouleversement il y a seulement 2 ans? Est-ce que le dialogue social n'est pas en train de descendre au niveau, si ce n'est des branches, en tout cas des entreprises, et de plus en plus?
Alors, en partie oui, et c'est d'ailleurs la volonté du patronat, c'est des chefs d'entreprise, et c'est une bonne chose.
Davantage que des syndicats?
Peut-être, disons que les syndicats attendent de voir dans quelle mesure dans l'entreprise peut ou non s'établir un rapport de force équilibré. Alors que quand on est au niveau national, et d'ailleurs c'est public, il y a les médias, l'État intervient, et donc il y a des jeux d'acteurs qui sont complexes mais qui sont plus faciles pour les syndicats. Au niveau de l'entreprise, les choses sont beaucoup plus compliquées. Et je pense que si l'on veut que le dialogue social se renforce au niveau de l'entreprise, il faut alors reconsidérer les équilibres de pouvoir au sein de l'entreprise. Parce que, effectivement, on peut voir le verre à moitié plein. Il y a des dizaines de milliers d'accords dans les entreprises, et donc on peut dire le dialogue fonctionne bien. Mais quand on regarde de près, sur quoi portent les accords? Vous venez de l'évoquer, sur des clauses qui sont quasi obligatoires. Ils peuvent, à l'inverse, porter sur des éléments un peu cosmétiques, périphériques à la relation employé-salarié ou à la réalité du travail. Mais combien d'accords et combien de négociations sont vraiment ouvertes sur les vrais sujets qui intéressent les salariés? Beaucoup moins. Et donc, il me semble que la question à poser, c'est plutôt, et on ne la pose pas comme ça souvent, c'est à quoi sert le dialogue social? Deuxième question, de quoi les entreprises ont-elles besoin aujourd'hui pour faire face à quels enjeux? Et alors, à quelles conditions le dialogue social peut contribuer à cela? Et on s'aperçoit en deux mots de deux choses, c'est qu'à mon avis, il y a deux objectifs qu'il faut rappeler. Il faut réhabiliter aujourd'hui le travail dans la gouvernance, le facteur travail, et sur le terrain, il faut réhabiliter le travail réel.
Cette question qu'on ne pose pas suffisamment, Jean-Marc Le Gall, je vais la poser à Pierre Ferracci. À quoi sert le dialogue social? Est-ce qu'aujourd'hui, le dialogue social sert avant tout, et peut-être d'ailleurs depuis toujours, à mieux faire fonctionner l'entreprise en améliorant les relations en interne? Ou bien est-ce que, par exemple, en période de crise économique, le dialogue social n'est pas promu d'abord pour faire passer un certain nombre de mesures dont certaines sont douloureuses pour les salariés?
Alors, ce qui se passe depuis l'accord interprofessionnel de 2013 et la loi qui a suivi sur notamment la gestion des restructurations est très symptomatique. C'est vrai qu'il y a sans doute plus de négociations. Mais sur quoi porte la négociation? La plupart du temps sur les conséquences sociales de la restructuration, moins sur le fond de la restructuration. Et c'est un des problèmes qu'on n'arrive pas à traiter dans notre pays. Et c'est là que je pense qu'il faut dépasser d'ailleurs le rôle du comité d'entreprise, tout en renforçant ses prérogatives, et qu'il faut peut-être réfléchir ce qu'avait fait timidement l'accord de 2013 à la place des salariés ou des syndicats dans les conseils d'administration. Une démocratie...
Et une place plus importante d'ailleurs depuis cet accord.
Oui, un petit peu plus importante, mais je trouve qu'on aurait dû aller plus loin. Il y a une loi de 2008 sous le gouvernement, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, qui allait dans le bon sens en matière de représentativité. Pourquoi ne donnerait-on pas aujourd'hui aux syndicats représentatifs une place dans le Conseil, au lieu de rentrer dans une discussion d'apothicaire jusqu'à 12 administrateurs, un représentant, au-delà de 12, deux? Je trouve qu'on joue un peu petit bras dans ce domaine. Donc il faut, et j'en reviens à la question essentielle, il faut que le dialogue porte sur les enjeux essentiels de l'entreprise. Et quand il y a une restructuration qui s'annonce, au lieu simplement d'en discuter des conséquences, il faut peut-être discuter aussi du fond avec les représentants du personnel. Et la question de l'anticipation de ces restructurations est toujours posée et jamais résolue. Donc moi je suis favorable à une évolution des pouvoirs dans l'entreprise qui donne à la fois à l'instance comité d'entreprise les prérogatives qui lui sont aujourd'hui reconnues, y compris dans le domaine de la santé au travail, puisque la question de l'emploi est importante, mais la question de la qualité du travail et la santé au travail l'est tout autant. Mais il faut aussi que dans la gouvernance de l'entreprise, en tout cas dans les entreprises d'une certaine taille, on retrouve cette capacité qu'ont les partenaires sociaux dans d'autres pays à anticiper les mutations, à anticiper les restructurations, et à partir de là, à mieux préparer les salariés à des reconversions qui sont moins douloureuse que lorsque on s'y prend toujours au dernier moment, dans l'urgence et sans avoir traité les questions d'orientation, de formation et de recherche d'un nouvel emploi. Et c'est là que le dialogue social trouverait sa véritable vertu, et c'est là, je pense, qu'il s'accommoderait sans trop de difficultés des enjeux de compétitivité, de performance économique de l'entreprise. On a l'impression que le dialogue social, d'ailleurs certains représentants patronaux malheureusement laissent parfois échapper des phrases assassines, on a l'impression que le dialogue social comme les syndicats servent de sparadrap quand il faut traiter quelques sujets dans l'urgence mais qui ne sont pas vraiment intégrés dans le fonctionnement de l'entreprise.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression également, Pierre Ferracci et Jean-Marc Le Gall, que les organisations, enfin au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire que ce soit la direction ou les organisations syndicales, se satisfont aussi peut-être de cette relation déséquilibrée? Est-ce que tous les syndicats ont forcément envie d'avoir davantage de pouvoir et donc aussi peut-être de responsabilité dans les décisions qui sont prises du coup?
Là, il faut faire un peu d'histoire parce qu'à l'origine, l'équilibre des forces s'est réparti de la manière suivante. Aux dirigeants, la vie de l'entreprise, la stratégie de l'entreprise, l'économie, et aux syndicats, la négociation de contrepartie, de compensation à des situations de pénibilité, etc. etc. Et le partage s'est longtemps fait comme ça. On a appelé ça le compromis fordiste, mais c'est au fond ainsi que les relations sociales se sont développées. Or aujourd'hui, ça ne marche plus du tout. D'une part, parce que le paysage économique, comme vient de le dire M. Ferracci, est beaucoup plus accidenté, et les questions de restructuration, de fusion se multiplient, et il faut donc avoir un regard sur la stratégie. Mais les salariés eux-mêmes, ils ne souhaitent pas des compensations, des contreparties. Aujourd'hui, il y a des situations de travail qui seraient décevantes. Ils veulent qu'on discute du travail, ils veulent qu'on discute de rapport avec le management, de l'autonomie, de l'implication. Bref, ils veulent que des sujets qui sont au cœur des stratégies d'entreprise et du fonctionnement interne des entreprises soient discutés. On n'est plus du tout dans le compromis traditionnel qui continue parfois à inspirer les relations entre les partenaires sociaux. Il faut passer à autre chose. Et pour passer à autre chose, je suis tout à fait d'accord avec M. Ferracci, il faut d'abord responsabiliser les partenaires sociaux. Or, il faut rappeler une chose, c'est que quand on n'a pas de pouvoir, on n'est pas incité à être responsable. Si vous voulez que les partenaires sociaux soient plus responsables qu'ils ne le sont, alors il faut leur reconnaître du pouvoir. Et il faut à la fois que les partenaires sociaux s'intéressent plus effectivement à l'économie et à la compétitivité, mais il faut de leur côté que les patrons s'intéressent beaucoup plus au travail et aux aspects de relations sociales et de fonctionnement social d'entreprise. Et on a une montée en responsabilité et des syndicats et des patrons qui vont plus s'intéresser au domaine habituellement de spécialité de leurs partenaires. Et on va avoir un terrain commun. Et on va avoir des rapports de force équilibrés. Et le dialogue social, ce qui me gêne dans ce mot, c'est que il y aurait le dialogue social, c'est positif, et il y aurait le conflit, c'est négatif. Le dialogue social se nourrit aussi bien de conflits assumés que de compromis productifs. Et je dirais même qu'il n'y a de bons compromis qu'à partir de bons rapports de force.
Donc on ne peut pas d'ailleurs faire le lien forcément entre, par exemple, une moindre présence de conflits sociaux et un bon dialogue social. Ce n'est pas parce qu'il y a moins de conflits que le dialogue social est meilleur. Ça peut parfois peut-être d'ailleurs être le contraire, Pierre Ferracci.
Ah, mais je partage le point de vue de Monsieur Le Gall. De temps en temps, il y a des conflits qui sont utiles. Il faut éviter l'enlisement dans certaines relations et dans certaines restructurations qui ne servent pas les salariés. Mais le compromis ancien est aujourd'hui dépassé. Il faut trouver les bases d'un nouveau compromis. Et moi, je crois qu'il y a deux évolutions à faire du côté des organisations syndicales et du côté du patronat. Du côté des organisations syndicales, et c'est en large partie déjà effectué. Il faut comprendre ce que sont les ressorts de la pérennité de l'entreprise, de la compétitivité de l'entreprise. Je crois qu'ils ont fait des progrès considérables ces derniers temps.
Et du même côté, si le terme de compétitivité n'est pas toujours très bien perçu.
Oui, bien sûr, mais bon, de temps en temps, on bute sur des problèmes de sémantique, mais sur le fond, ils savent très bien qu'assurer la compétitivité de l'entreprise est la meilleure façon d'assurer la pérennité de leurs emplois et de leur travail. Et du côté du patronat, il faut effectivement s'intéresser davantage aux questions du travail, du contenu du travail, de la santé au travail, même si le terme est un petit peu restrictif. Et de ce côté-là, peut-être qu'il y a des progrès supplémentaires à faire. Et à partir de là, si on partage ces enjeux essentiels pour l'entreprise, le dialogue social va prendre tout son sens. Ça ne sera pas simplement un instrument pour des compromis au plus petit dénominateur commun. Il y a aujourd'hui des problèmes majeurs qui se posent aux entreprises. Il faut partager davantage les responsabilités. Là, je partage le point de vue de mon interlocuteur. Et en partageant les responsabilités, je suis aussi d'accord, on responsabilise les uns et les autres. Mais on responsabilise des deux côtés. Et je trouve que la vision un petit peu figée qu'on a, où l'entreprise serait moderne et puis les organisations syndicales, en tout cas certaines d'entre elles, seraient archaïques et dépassées, n'est plus de mise aujourd'hui. Sur le terrain de l'entreprise, il y a effectivement beaucoup de volonté de signer des accords concrets. Et si ça ne se traduit pas au niveau interprofessionnel par plus d'accords, c'est parce que le terrain s'est déplacé très clairement au niveau de l'entreprise et que l'entreprise est redevenue au cœur du village.
Jean-Marc Le Gall, d'un mot, ce partage des responsabilités, il doit être contraint, c'est-à-dire inscrit dans la loi, et c'est ce qu'on verra dans la deuxième partie de l'émission.
J'aurais préféré une loi qui amplifie les dispositions de l'ANI de 2013 et qui donne tout leur impact à la création des administrateurs salariés. Parce que là, on changeait le cadre des relations sociales. Et après, il en aurait résulté un dialogue social beaucoup plus intéressant. Je pense qu'on a pris le problème par le petit bout de la lorgnette.
C'est aussi votre point de vue, Pierre Ferracci ?
C'est mon point de vue. Je crois que la question aujourd'hui, c'est de trouver un meilleur équilibre entre le fonctionnement des conseils d'administration où se définissent les choix stratégiques et le fonctionnement des instances représentatives du personnel où se traitent les problèmes de gestion courante de l'entreprise. Il faut traiter les deux et il y a un déséquilibre très clair aujourd'hui dans le cadre législatif qui nous est proposé.
Voilà, donc on verra à partir de 8h15 comment le projet de loi essaie de régler les problèmes et les inadéquations que vous venez d'évoquer. On se retrouve dans un quart d'heure.